Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Après le séisme de dimanche, la victoire du Front National aux élections européennes en France, la décomposition de l'UMP, la descente aux enfers des socialistes, notre invité, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir Jean-Marie Le Guen.
Bonsoir.
Vous faites partie des nouveaux venus du gouvernement, longtemps député de Paris, ancien strauss-kahnien, médecin spécialiste de la santé. Vous êtes à votre poste aujourd'hui un rouage essentiel entre le gouvernement et la majorité. En ce moment, la tâche n'est pas facile. Pour vous interroger cette semaine, Bernard Pellegrin de l'agence France Presse, bonsoir.
Bonsoir.
Et Lilian Alemania de Libération, bonsoir.
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 On commence donc cette émission avec la crise à l'UMP, l'affaire Big Malion, les fausses factures pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Elles auront eu raison de Jean-François Copé, poussé à la démission ce matin. Une décision saluée par l'ancien Premier ministre Alain Juppé.
Je pense que c'est la bonne décision, à la fois pour la sérénité de notre mouvement et pour Jean-François Copé lui-même. J'ai bien conscience que c'est une décision difficile à prendre. Il l'a fait courageusement et je voudrais rappeler que, comme tout un chacun, il a droit, bien entendu, à la présomption d'innocence. Nos militants et nos militantes sont traumatisés. Il fallait donc leur rendre la parole et c'est la raison pour laquelle ce congrès est donc un rendez-vous tout à fait capital.
Voilà, un nouveau congrès pour l'UMP, ce sera à la mi-octobre normalement. Première réaction, Jean-Marie Le Guen, à cette démission de Jean-François Copé, il était temps.
Écoutez, moi je ne veux pas porter de jugement sur le fonctionnement interne de l'UMP. En même temps qu'il me semble effectivement, comme j'allais dire un citoyen regardant ça de l'extérieur, que c'était évidemment quelque chose d'assez logique devant la gravité finalement de la situation qui nous est exposée. Bon, sur les affaires et sur la nature de cette affaire, moi je peux pas m'exprimer, il y a des enquêtes judiciaires et vous comprendrez bien que c'est pas un membre du gouvernement de s'exprimer sur le fond des choses. Je pense que ceci révèle une crise politique profonde finalement de l'UMP, sans doute toujours traumatisée et marquée par l'ombre portée de Nicolas Sarkozy et en même temps les compétitions par ailleurs légitimes, qui peuvent exister vis-à-vis d'autres leaders potentiels de l'UMP. Et puis, au-delà de ça, parce que je pense que la crise n'est pas simplement une crise, j'allais dire, autour du scandale du financement de la campagne présidentielle, elle n'est même pas simplement une crise qui se fait autour des questions de personnes, de leadership, et finalement, là encore, ça pourrait être considéré comme normal, mais je pense qu'il y a plus profondément une interpellation suite aux évolutions de l'UMP ces dernières années, c'est-à-dire vers où elle regarde. Est-ce qu'elle regarde vers le Front National, ce qui a été le cas depuis l'inflexion de la campagne de Nicolas Sarkozy et sous l'instigation, en quelque sorte, de Jean-François Copé. Est-ce qu'elle a une autre stratégie? Voilà, ce sont des questions qui sont objectivement posées, qui, à mon avis, sont de nature très politique au-delà des affaires. Et les affaires sont aussi, évidemment, une dimension importante. Regarde ce qu'est le fonctionnement de nos règles démocratiques.
Jean-Marie Le Guen, une question de Bernard Pellegrin de l'AFP.
Alors, pardonnez l'expression, mais franchement, ça arrange un peu vos bidons, quand même, cette affaire UMP, parce que ça se passe 24 heures après une défaite absolument historique pour le Parti Socialiste, et on ne parle plus que de ça.
Oui, bien sûr, mais en même temps, je pense que personne n'est dupe. Les Français savent très bien les résultats des élections, ils les ont analysés, ils ont une vision évidemment très critique, je le crois, du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, ils l'ont manifesté en ne votant pas pour lui. Ils n'ont pas tellement voté pour les autres, mais ils n'ont pas voté pour lui. Je pense que nous sommes confrontés, nous, principalement, non pas à une contestation politique sur notre gauche, mais à une désaffection massive de l'électorat qui a voté pour nous. Pourquoi ? Parce que nous n'avons sans doute pas d'abord de résultats concrets, nous manquons sans doute de sens, on perçoit mal la direction qui est la nôtre, même si elle s'affirme, à mon avis, depuis un certain nombre maintenant de semaines. Voilà, donc on est face à cela. Maintenant, sur votre question, je voudrais dire, je pense très sincèrement que les Français, c'est toute la classe, comme on dit. Je déteste ce mot, mais enfin, employons ce
classe
terme,
politique.
La classe politique, qui est quelque part touchée. Je ne doute pas une seconde que le scepticisme, même si la réalité n'a absolument rien à voir, je ne doute pas une seconde que quelque part le dégoût dont va s'emparer, je pense, les Français face à cette affaire. Aura une image très négative sur l'ensemble des politiques et pas simplement sur
donc
lui-même.
Donc Cahuzac plus Aquilino Morel plus Big Malion, ça donne le FN à 25%?
Non, je ne crois pas. Je crois que ça contribue à rendre délétère la situation et ça contribue à affaiblir encore une fois les adhésions potentielles qu'il pourrait y avoir aussi bien à la droite républicaine que à la gauche réformiste. Mais je crois que le Front National vient pour toute une série de raisons, mais qui n'est pas du tout simplement le résultat d'un impératif moral. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, ça serait quand même le comble, parce que on ne parle plus, on ne parle pas de toutes les affaires de financement également du Front National. Donc non, je crois qu'il y a des racines plus profondes à tout ça. Il y a sans doute des questions économiques et sociales, mais il y a aussi des questions purement politiques. Je pense que on voit bien d'ailleurs qu'en Europe, même si la France est un cas particulier, mais il y a un mouvement général de montée des nationaux populistes, une volonté des sociétés de se replier sur elles-mêmes. En France, il y a aussi, je crois, plus particulièrement, un retour à un certain nombre d'idées politiques de l'extrême droite qui ont fleuri avant la première moitié du XXe siècle. Et ces idées-là, elles existent. Moi, je pense qu'il y a des courants politiques qui existent dans la nation française, aussi bien des courants, j'allais dire, un peu populaires populistes et des courants, au contraire, fondamentalistes. Et la force du Front National aujourd'hui, c'est d'arriver à faire la synthèse entre ces deux courants historiques de l'extrême droite et par ailleurs une situation qui, crise économique et sociale, crise morale, évidemment, contribue à lui donner plus d'espace.
Alors Jean-Marie Le Guen, on va revenir dans un instant sur les conséquences de ces élections européennes, mais je voudrais revenir là sur l'affaire Big Malion. Est-ce qu'il s'agit d'une affaire Sarkozy? Écoutez ce que disait ce matin Marine Le Pen, précisément la présidente du Front National, au micro de Jeanne Richard.
Ceci incontestablement remet en cause la régularité et donc la légitimité du premier tour de l'élection présidentielle. C'est une situation très grave. Clairement, Nicolas Sarkozy a trahi la démocratie, trahi les règles républicaines.
Voilà, Marine Le Pen qui considère que l'affaire Big Malion est une affaire Sarkozy. Est-ce que c'est aussi le cas à vos yeux ?
Si je peux me permettre, elle dit deux choses. Elle dit que, au-delà de l'aspect illégal, pénal, au sens détournement de fonds, enfin utilisation des fonds de l'un à l'autre, et c'est tout à fait critiquable et scandaleux et potentiellement pénalement répréhensible, elle dit que l'élection a été, de ce point de vue, le fair play de l'élection n'a pas été respecté. Sur ce terrain-là, si les faits sont avérés, il semble qu'ils le soient, puisque y compris...
Il y a eu des aveux.
Enfin, les aveux, vous savez, ne suffisent pas. Hein, depuis l'inquiétude au XVe siècle, on sait que les aveux ne suffisent pas. Enfin, j'ai pas l'impression que M. Lavrieux était passé sous les fourches de l'Inquisition. Donc, je crois qu'effectivement, de ce point de vue-là, l'élection, c'est bien pour ça qu'il y a des règles. Le financement de la vie politique, c'est de mettre à égalité. D'ailleurs, on limite les dépenses en disant notre système démocratique, c'est pas de faire déborder d'argent la campagne électorale, c'est d'en limiter les montants. Et d'ailleurs, comme on est démocrate, on rembourse une partie de ces élections, etc. Système que je trouve plutôt équilibré dans notre pays. Peut-être encore un peu trop, mais en tout cas équilibré. Bon, eh bien, ce système apparemment a été profondément violé pour des sommes qui sont très substantielles. On parle de 30 à 40% de dépassement du budget, ce qui n'est pas 1%, 2%, tel que l'avait été la première remise en cause des comptes de M. Sarkozy.
La validation des comptes.
Alors,
de
voilà,
campagne par
le Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai pas à mettre aujourd'hui en cause M. Sarkozy. Par contre, indiscutablement, le fait qu'il y ait des règles démocratique, c'est-à-dire de financement de campagne qui ne soit pas respecté, pose un problème démocratique. C'est pas simplement un problème de moralité, de financement, etc. C'est un problème démocratique dans l'élection qui est posé.
Et donc, est-ce que ces soupçons sont de nature à empêcher une candidature de Nicolas Sarkozy en 2017?
Je n'ai pas, moi, à en juger. Nous verrons après. La justice est saisie et va se saisir, me semble-t-il, j'ai bien compris, de beaucoup d'infractions. Hein. Elles sont très nombreuses. Si je suis pas un juriste tout à fait patenté, mais enfin, quand je regarde un petit peu de près, il y a des chapelets d'infractions pénales lourdes potentielles. D'ailleurs, ça explique peut-être la tension qui existe aujourd'hui.
Une question de Lilian Alemania, Libération.
Monsieur Le Guen, vous dites que c'est un système équilibré. Hier, Jérôme Lavrieux a accusé aussi le PS d'externaliser une partie de ses frais, notamment en utilisant le personnel du Parti Socialiste, payé par le Parti Socialiste et qui travaillait pour la campagne de François Hollande.
Mais tout ça a été réintégré dans les comptes, c'est tout à fait transparent. Il y a eu une réponse factuelle, d'ailleurs, ce matin, des trésoriers, qui est beaucoup plus compétent que je ne suis capable de le faire. Voilà. Par contre, ce qui me frappe dans la démarche de M. Lavrieux, c'est quand il dit ça, c'est qu'il est toujours sur la même stratégie de fuite. Donc, alors que son témoignage était objectivement émouvant, moi, je suis comme tout le monde, je regarde la télévision, je vois un homme que je connais pas très bien, pour ainsi dire pas du tout, il dit des choses, il pleure, il parle de son papa, tout ça, on se dit, bon, bah voilà, il a fait une faute, il la reconnaît, etc. Dans le même temps, il commence à balancer sur les copains, ou plus directement sur les adversaires, en l'occurrence, puisqu'il a essayé de préserver ses copains, et on se dit, tiens, bah finalement, la sincérité, elle est peut-être pas aussi grande qu'on le pensait. Alors, est-ce que c'est dans sa tête qu'il a des stratégies de fuite? Je suis médecin, donc moi, je m'interroge toujours sur l'état des patients, et ou c'est un calcul politique, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas très net, quoi. Ça sonnait pas, vous voyez, quand on fait sonner une cloche, on entend si elle est fêlée ou pas. Là, en l'occurrence, la cloche était un peu fêlée, me semble-t-il.
Jean-Marie Le Guen est l'invité de Mardi Politique, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. On en vient aux élections européennes de dimanche. Ce séisme dans le paysage politique français, pour reprendre le mot de Manuel Valls, le Premier ministre. Première victoire de l'extrême droite à des élections nationales en France. Un quart des voix dimanche. Est-ce qu'à vos yeux, Jean-Marie Le Guen, le Front National aujourd'hui est le premier parti de France ?
Oui, alors c'est un débat que peuvent avoir les politologues. Non, je ne le crois pas, et en même temps, je ne veux pas en disant cela, parce qu'il faut plusieurs élections, il faut une forme d'organisation et de présence sur le territoire. C'est ce que vont nous dire les politologues. Par contre, je ne veux en rien, en disant cela, sous-estimer l'alerte extraordinaire. Bon.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu du déni dans le passé et un certain aveuglement face à la progression du Front National ?
Écoutez, je ne crois pas parce que, en tout cas, c'est pas chez moi. Moi, ça fait, vous regarderez, je me suis exprimé depuis des mois sur l'idée que la situation politique française était totalement bouleversée par l'existence d'une tripolarité avec l'affirmation d'une force d'extrême droite, en l'occurrence le Front National. Donc, je n'ai pas été surpris. Et d'ailleurs, les Français, ni la gauche, enfin, je veux dire, personne d'entre nous ne peut dire qu'il a été surpris. C'est l'énorme. J'entends dire certains, c'est un 21 avril. Pas du tout. 21 avril, tout d'un coup, on n'avait pas vu venir, ou très peu de gens, vraiment, une minorité avait vu venir. Là, pas du tout. Les sondages, quelque part, nous disaient très largement que les choses allaient arriver.
Trompés, ouais.
Et moi, ce qui me frappe, c'est une interrogation fondamentale. Je vais parler pour le camp républicain et pour la gauche. Enfin, je vais poser au camp républicain et à la gauche un certain nombre de questions. C'est que, sachant cela, beaucoup de Français sont pas venus voter. Sachant cela, la campagne électorale ne s'est pas activée. On n'a pas eu une campagne suractivée. Non pas parce que les principaux animateurs ne voulaient pas le faire, mais ça n'a pas embrayé. Alors, nous avons une responsabilité majeure, sans aucun doute. Mais bon, c'est une responsabilité première des politiques républicains. C'est aussi quelque part une responsabilité des citoyens. Les citoyens, ils ont le droit de vote, ils l'exercent, ils l'exercent pas. Bon, voilà. Et nous, on n'a pas été bons, et je pense que, voilà, les questions se posent. Il va falloir en tirer des leçons.
Bernard Pellegrin, de l'AFP.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci avec la façon dont le Front National est mis à l'écart par le système qui est le nôtre depuis des années ? Je veux dire par là, est-ce que un petit peu de proportionnel, ou beaucoup de proportionnel, c'est, je ne sais pas, n'aurait pas rendu ce parti plus ordinaire, n'aurait pas permis que ce parti devienne maintenant à intervalles réguliers une sorte de défouloir où les gens déversent leur colère, leur amertume, leur lassitude, etc., Alors que si on avait l'habitude d'avoir un certain nombre de députés Front National depuis longtemps, finalement, ils seraient dans le jeu ordinaire. Et après tout, l'une des propositions du président François Hollande était d'instiller un peu de proportionnel.
Alors, je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le Front National n'est plus ce qu'il était. Ce que vous décrivez là, me semble-t-il, correspondait en grande partie à ce qu'était le Front National des années 80-90. C'est-à-dire avec des hauts, des bas, des incendies, la colère, et hop, la vapeur, quelque part, sortait par le biais du Front National. Il était instrumentalisé par la colère et le ras-le-bol des gens, à différents moments de l'histoire des années 80-90. Je pense que ce n'est plus la nature de ce courant politique aujourd'hui. Je pense qu'il a un électorat relativement constitué, relativement mobilisé, relativement adhérent aux thèses que défend le Front National. C'est pour ça d'ailleurs que je parle, moi, de tripolarisation, c'est-à-dire que je pense que c'est un courant politique installé. J'ai pas dit que c'était la première force politique, mais c'est un courant politique installé dans la zone des deux scores à deux chiffres, d'audience à deux chiffres, avec une idéologie, avec un discours, avec une adhésion d'une très forte partie de son électorat. C'est plus un électorat volatile, c'est plus un électorat simplement dans la protestation, c'est aussi dans l'adhésion à des thèses que je trouve extrêmement dangereuses. Deuxièmement, votre argument de l'introduction, outre le fait qu'ils ont deux députés, je veux dire, comme de toute façon c'est l'exercice des responsabilités qui poserait question, il faudrait les mettre jusqu'au gouvernement pour être sûr qu'effectivement avec eux ça va encore beaucoup, beaucoup plus mal qu'avec tout le monde, ce dont je suis évidemment convaincu. Et si vous voulez, on peut d'ailleurs en parler sur le pourquoi. Mais je n'ai pas envie de faire l'expérience, on n'est pas dans un laboratoire avec on n'est pas des petits rats qu'on met dans un laboratoire avec le Front National qui joue à l'apprenti sorcier.
Donc, pas de proportionnel possible dans les années qui viennent.
Non, c'est autre chose, la proportionnelle.
Ah, c'est autre chose. Il y a de la proportionnelle, il y aura des députés Front National.
Non, proportionnelle, parce qu'on penserait que ça, c'est une forme de représentation politique, on peut toujours en discuter. Moi, j'ai de plus en plus de doutes, à titre personnel. Alors, je sais bien, et je sais que dans mon parti, je sais même qu'on a pris on a adhéré à cette idée d'avoir un peu de proportionnel, pourquoi pas, mais il n'empêche que mentalement, je doute un petit peu de la proportionnelle quand je la vois appliquée chez les autres et parfois aussi dans ma propre organisation.
Alors, parmi les autres promesses pour l'instant non tenues de François Hollande dans son programme de 2012, il y a le droit de vote des étrangers. Jean-Christophe Cambadélis, le nouveau patron du Parti Socialiste, a remis le sujet sur la table, juste avant le scrutin de dimanche d'ailleurs. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui d'avancer ce sujet ?
C'est une éternelle question. Est-ce que il faut prendre ou pas ce sujet ? Je pense que ce sujet est un test important au plan symbolique. Je pense qu'il ne correspond plus à la réalité sociale et politique des années 80-90 quand il est né, au sens où les parents âgés n'avaient pas la nationalité, donc c'était une forme de reconnaissance. Bon, aujourd'hui, les parents sont très 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 âgés, les adultes sont pour la plupart avec la nationalité française, donc la question se pose à une valeur plus symbolique qu'une valeur réellement d'intégration de masse à l'intérieur du système électoral. Néanmoins, il est vrai que beaucoup, au-delà de la gauche, ont porté l'idée, ont dit qu'il était possible et souhaitable que ce droit de vote des immigrés soit reconnu. J'ai même cru comprendre que c'était la position de la numéro 2 de la liste Front National en Bretagne.
Oui, mais elle a démissionné.
Oui, exclue peut-être, mais elle a démissionné. Je vous signale au passage que pour un parti, faut quand même que vos auditeurs le sachent, il y a eu quand même deux démissions de gens élus, deux femmes d'ailleurs. C'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Je veux dire, par là, il y a des tensions à l'intérieur de ce parti ou de cette structure qu'on ne connaît pas, mais qui sont quand même particulières, me semble-t-il.
Très rapidement, Jean-Marie Le Guen, dernière question avant la fin de cette première partie. Est-ce que, compte tenu du score du Front National à ces européennes, vous voyez Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2017?
Oh, bah, très clairement, il y a un risque. Je veux dire, on peut pas. Je vais pas dire que je la vois. Je ne suis pas. Je peux pas lire. Mais je veux dire, croire que par définition elle ne peut pas y être serait une folie de ne pas penser ça. Nous sommes dans cette situation où il y a potentiellement, effectivement, une candidate ou le candidat du Front National, enfin en l'occurrence Marine Le Pen pour dire, qui pourrait être présent au deuxième tour.
Sachant qu'aux européennes, le Parti Socialiste s'est classé troisième.
Sachant que aux européennes, Parti Socialiste s'est passé troisième, c'est pour dire que la situation est tout à fait grave.
Merci Jean-Marie Le Guen. On va y revenir dans un instant, mais d'abord un point sur les dernières informations.